France Inter, le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Une semaine au moins de canicule, on vient de l'entendre. Les températures très élevées en journée resteront élevées la nuit. Phénomène sans précédent pour un mois de juin. Toutes les précautions sont prises en direction notamment des personnes âgées. La surenchère entre les États-Unis et l'Iran en attendant l'annonce de nouvelles sanctions demain. Washington lance des cyberattaques contre Téhéran où les députés ont repris ce matin un vieux slogan de Khomeini à mort l'Amérique. Pour ou contre Erdogan en Turquie, l'élection municipale à Istanbul ce dimanche après avoir été annulé il y a 3 mois, sera un test décisif pour le pouvoir en place. Dans ce journal également, ne tapez pas sur l'avion. 91 parlementaires de différents bords répliquent à ceux qui voudraient taxer le trafic aérien. Un an après la fin d'Autolib à Paris, comment s'organise l'autopartage dans la capitale et comment repenser les nouvelles mobilités? C'est le droit de suite de ce dimanche 13h, un jour important ce dimanche pour les Bleus. ES en Coupe du Monde de foot, les Françaises en 8e de finale ce soir au Havre face au Brésil.
France Inter.
Chaud devant, c'est donc ce qui va nous occuper dans les heures qui viennent partout en France ou presque. Seule une partie de la Bretagne devrait échapper à la vague de chaleur qui s'annonce pour au moins toute la semaine. Et comme à chaque fois dans ces circonstances, c'est à nos anciens qu'on pense en priorité. Tous les médecins le disent, les personnes âgées sont les plus fragiles et doivent se protéger des grosses chaleurs. Toutes les précautions ont donc été prises dans les EHPAD et résidences du troisième âge, comme ici à Saint-Étienne où Fabrice Hawkins est allé s'en assurer.
Dans cette résidence, beaucoup préfèrent affronter le froid de l'hiver plutôt que la chaleur de l'été.
6 bouteilles d'eau plate et 6 bouteilles d'eau piquante pour me permettre de passer la canicule tranquille.
Charles, 70 ans, a fait le plein d'eau pour bien s'hydrater. Denise appréhende aussi les températures caniculaires.
On ne dort pas la nuit, on ne dort pas la journée parce qu'il fait trop chaud. Et au bout d'un moment, le corps il s'épuise, il se fatigue. Va falloir justement prendre des précautions à ça.
Les précautions, sa copine Marinette va en prendre. Elle a connu les canicules dramatiques de 1976 et de 2003.
Je vais rester tranquille. À la maison, je crains énormément la chaleur. Quand je vois, il y a des gens sur la plage qui se mettent en bikini et au grand soleil, ça m'est jamais arrivé. Puis j'ai une peau très claire, moi, donc je crains énormément la chaleur. Je prends des coups de soleil et c'est très, très douloureux.
La directrice de la résidence, Karima Bojo, a pris des mesures exceptionnelles pour que tout se passe bien.
Dans la résidence, vous avez un grand salon qui est climatisé et qu'il sera pendant toute la période caniculaire 24 heures sur 24. On va être aussi vigilant et on va leur demander de se manifester tous les jours quotidiennement auprès de la réception. Ça permettra de pouvoir intervenir si besoin.
Et pendant la semaine, les pièces climatisées de la résidence seront ouvertes à toutes les personnes âgées du quartier.
Fabrice Hawkins à Saint-Étienne, faut-il rappeler la nécessité de s'hydrater en évitant bien sûr les boissons alcoolisées et l'eau glacée. Pour tout savoir de cette canicule et de ses implications, notamment sur les conditions de travail, des salariés trop exposés peuvent-ils par exemple exercer un droit de retrait? Dossier complet à consulter sur franceinter.fr. Alors ce n'est pas une activité très indiquée normalement en temps de canicule, mais on n'oublie pas à l'occasion de la fête du sport cette nouvelle répétition des JO 2024, place de la Concorde en ce moment même à Paris. 50 000 personnes vont pouvoir s'essayer à différentes disciplines en compagnie de quelques illustres champions comme Renaud Lavillény ou Yannick Agnel. Chaud d'ambiance, Cédric Langrotte, hein, c'est le cas de le dire.
Oui, très chaude ambiance alors qu'on atteint les plus chaudes heures de la journée ici sur la place de la Concorde, au pied de l'obélisque de la Concorde où est en train de se dérouler une démonstration de BMX. Toujours très spectaculaire de voir les vélos s'élancer dans les airs de Paris. Vous l'avez dit Yves, répétition générale à 5 ans des Jeux Olympiques. Le comité d'organisation des Jeux a voulu faire une grande fête populaire. 30 fédérations réunies tout autour de la place. Il y a évidemment tous les sports bien connus et aussi tous les nouveaux sports. On pense par exemple à l'escalade avec ce grand mur d'escalade installé en plein cœur des Champs-Élysées. Vision très impressionnante de cet enfilade obélisque de la Concorde. Mur d'escalade et arc de triomphe avec des démonstrations faites par des champions d'escalade. Il y a aussi le breaking évidemment. Bref, c'est une grande et belle fête du sport. Pour l'instant, c'est un peu clairsemé sur la place de la Concorde. Peut-être est-ce dû à la chaleur, mais c'est ouvert jusqu'à ce soir 19h.
Cédric Langrotte, place de la Concorde. On reparle de sport tout à l'heure en fin de journal, de foot notamment. Et puis, gare aux manifestations sportives qui tournent mal. Dans le Gard, c'est un garçon de 3 ans qui a été percuté par une motocross alors qu'il regardait la course au bord de la piste. Bilan, un traumatisme crânien et une jambe fracturée. La course a maintenant repris.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decan.
Un test risqué pour Erdogan en Turquie. L'élection municipale de ce dimanche à Istanbul sera pour le président turc et son parti islamo-conservateur soit la confirmation de sa popularité, soit un revers cinglant. Car compte tenu des circonstances, l'annulation du précédent scrutin il y a 3 mois, l'élection municipale a viré au référendum pour ou contre Erdogan. Le représentant de l'opposition Ekrem İmamoğlu, qui l'avait emporté d'une courte tête, a présenté ce nouveau scrutin comme une bataille pour la démocratie, un scrutin qui devrait donc mobiliser les Stambouliotes, Eric Biegala.
Oui Yves, la participation devrait d'ailleurs être l'une des clés de ce scrutin. Elle promet d'être forte, hein, comme toujours en Turquie. Lors du scrutin municipal du 31 mars, elle frisait les 85% et promet d'être encore plus forte aujourd'hui. Nombre d'électeurs sont rentrés de vacances juste pour pouvoir glisser leur bulletin dans l'urne. Une forte participation qui devrait normalement plutôt avantager Ekrem İmamoğlu, le candidat d'opposition, celui qui avait remporté le premier scrutin en mars avec seulement 13 000 voix d'avance. Une marge infime à l'échelle des quelques 10 millions de votants d'Istanbul. Les enquêtes d'opinion des derniers jours le donnaient toutes vainqueur, à nouveau, ce dimanche, mais avec cette fois une marge plus importante, de l'ordre de 300 000 voix. Une forte participation aujourd'hui avantagera donc particulièrement İmamoğlu, et puis le candidat d'opposition a aussi pour lui de ne plus être un inconnu comme en mars. Il passe très bien à la télévision, son discours plutôt consensuel est apprécié, y compris des électeurs qui votent traditionnellement plutôt pour Erdogan et les conservateurs. Certains me disaient même ces derniers jours être prêts à virer leur cutie, à voter İmamoğlu cette fois plutôt que pour le candidat de l'AKP, le parti du président Erdogan. Ce parti et Erdogan lui-même qui contrôle Istanbul depuis 25 ans sont donc peut-être en train de faire l'expérience de ce que l'on appelle l'usure du pouvoir.
Eric Biegala à Istanbul avec Marc Garvenès. Qui remporte Istanbul remporte la Turquie, a d'ailleurs coutume de dire le président Erdogan lui-même. À l'étranger également, toujours la surenchère entre les États-Unis et l'Iran. Le président Donald Trump promet à Téhéran de nouvelles sanctions majeures pour demain. Mais déjà des cyberattaques auraient été lancées par Washington contre des systèmes de lancement de missiles iraniens. Après la destruction d'un drone américain, on sait que des frappes de représailles ont été annulées au dernier moment. Ne pas confondre prudence et faiblesse, précisait ce matin un conseiller de Donald Trump, le président américain dont il est toujours difficile de savoir ce qu'il a en tête. Laurence Nardon, spécialiste de l'Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, était ce matin l'invité d'Éric Delvaux sur France Inter.
Le grand risque aujourd'hui, c'est que la Maison-Blanche n'a pas de ligne claire sur ce qu'il faut faire en Iran. On sait que Trump déteste le régime iranien, mais en même temps, Trump n'est pas un interventionniste. Il a fait campagne sur le retrait, sur le fait que les États-Unis allaient s'occuper d'eux-mêmes. Il veut pas ouvrir un nouveau front militaire. Et pourtant, autour de lui, il a des conseillers qui prônent l'intervention, et notamment John Bolton, qui est son conseiller pour la sécurité nationale, Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État, et qui sont, eux, des va-t-en-guerre absolument déchaînés, j'ai envie de dire.
Ils appellent les faucons de la Maison-Blanche, c'est pas pour rien.
Absolument, et Bolton, par exemple, qui a été instrumental dans le déclenchement de la guerre en Irak en 2003, très rapidement après, vers 2007-2009, s'est mis à militer très activement pour une intervention en Iran, pour détruire ses installations nucléaires. Donc il est depuis plus de 10 ans en train de réclamer une intervention des États-Unis en Iran, et il est peut-être en train d'y arriver, puisque on ne sait pas vraiment trop ce qui peut se déclencher dans les jours à venir.
Et pendant ce temps, en Iran, les députés iraniens ont scandé ce matin « à mort l'Amérique » en reprenant l'ancien slogan de l'ayatollah Khomeini. En France, lever le voile sur la filiation dans le cadre du débat sur la PMA et du projet de loi de bioéthique. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le dit au journal du dimanche. Aujourd'hui, de nombreux enfants ne savent pas qu'ils sont nés par donneur. C'est un secret de famille. Je suis donc favorable à l'idée de lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous. Ce qui concernera donc aussi les couples hétérosexuels qui ont eu recours à un don. L'anonymat du don sera préservé, ajoute la ministre, mais l'enfant pourra avoir accès à son histoire et à l'identité du donneur quand il aura atteint l'âge de 18 ans. Le projet de loi qui prévoit notamment l'ouverture de la PMA à toutes les femmes doit être débattu fin septembre au Parlement. Taxé ou pas le trafic aérien domestique face aux propositions récentes de certains députés, ceux qui voulaient taxer le kérosène ou ceux qui voulaient interdire les avions sur des trajets faisables en train dans un temps comparable. Eh bien face à tout cela, d'autres parlementaires s'insurgent surge ce matin également dans le JDD. 91 députés et sénateurs de différents horizons pour lesquels il faut arrêter de taper sur l'avion sans remettre en cause l'urgence écologique. Il y a pour eux d'autres solutions que ces propositions jugées démagogiques et qui mettent en péril, de leur point de vue, les territoires les plus éloignés des métropoles. Parmi les signataires de cette tribune, Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde. Il est au téléphone de Victor Maté.
Il y a un aérien bashing depuis plusieurs mois qui monte. C'est un petit peu le concours Lépine contre l'aérien. Moi, ce que je constate aujourd'hui, globalement en France, c'est 15 000 emplois par an qui sont créés par l'aéronautique. Donc il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est une force dans l'économie française et européenne d'ailleurs. Nous devons arrêter de taper sur l'aérien et plutôt essayer d'aider l'aérien à la conversion vers des technologies bas carbone. Je pense notamment à l'hydrogène, à l'hybride. Je me suis rendu en début de semaine au Salon du Bourget. Il y a des innovations que nous devons soutenir. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Aujourd'hui, prendre l'avion, très clairement, c'est 2 litres au 100 par passager. Donc même en voiture, on ne rivalise pas sur un avion qui est plein, j'entends bien. Donc je crois qu'il faut arrêter de taper, de vouloir toujours taxer. Et tout simplement, et c'est valable pas que pour l'aérien, mais pour tous les raisonnements que nous avons, passer d'une écologie punitive à une écologie positive, incitative.
Benoît Simian, député de La République En Marche de Gironde. À propos de transport et de mobilité, c'était il y a un an, à Paris, les Autolib' disparaissaient peu à peu de la circulation. La mairie de Paris mettait fin au contrat qui la liait au groupe Bolloré pour la gestion de son système d'autopartage. 4000 petites voitures électriques dont le service avait été étendu aux communes de l'agglomération, mais le système était lourdement déficitaire. Aujourd'hui, 7 opérateurs ont pris la suite et commencent à installer leur flotte de véhicules hybrides, une flotte qui devrait atteindre le millier de véhicules, peut-être un peu plus à la rentrée de septembre. On est encore loin du compte. C'est le droit de suite de ce journal. Bonjour Sébastien Sabiron.
Bonjour.
Les mobilités dans la capitale, décidément, c'est une histoire sans fin.
Et qui oblige les usagers à s'adapter, comme l'a fait Agnès, caviste à Paris, écolo jusqu'au bout des ongles. Pour ses livraisons, elle utilisait Autolib.
Je travaille seul, je n'ai pas de voiture, je suis à vélo. Autolib était fort pratique puisque l'abonnement n'était pas très cher. Et du jour au lendemain quasiment, ils ont fermé les stations dans tout l'Est parisien. Impossible de livrer les clients, de réassortir le vin, ça n'a pas été très pratique.
Agnès se tourne donc vers Communauto, une société québécoise implantée à Paris depuis des années, mais plus chère et moins souple qu'Autolib.
Vous preniez une Autolib à un point A, vous pouviez la ramener à un point B, à un point C. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il faut louer la voiture à l'avance, ramener exactement à l'emplacement. C'est pas très souple. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Au mois de juillet 2018, il n'y avait que ça.
Depuis, l'offre s'est étoffée. D'un côté, Mobilib, l'autopartage en boucle. Il faut ramener la voiture au même endroit. 4 opérateurs, 600 véhicules. De l'autre, l'autopartage en trace directe. Vous localisez le véhicule sur une appli et vous le garez où vous voulez, un peu comme les trottinettes. 3 opérateurs, 1500 véhicules à terme. Une offre plus variée qu'Autolib, mais aussi beaucoup moins lisible, plus embrouillée, concède Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris.
Oui, il y a un travail à faire sur la lisibilité, parce qu'en fait, il y a des gens qui utilisent un peu Autolib et qui se disent « ah, rien à remplacer Autolib » parce que tout simplement, ils n'en ont pas l'usage. Mais quand vous n'avez pas besoin de prendre une voiture, c'est pas grave que vous identifiez pas exactement où elle est.
Paris se contente désormais de louer le stationnement et une partie de ses anciennes bornes aux opérateurs privés. Emmanuel Grégoire ne regrette pas ce choix, d'autant qu'Autolib s'était dégradé à la fin avec des voitures sales et des bornes désespérément vides.
Là, on est sur des acteurs privés qui assument le risque d'exploitation. Et s'agissant de secteurs concurrentiels désormais assez installés, il n'y a pas de raison que l'argent public soit utilisé dans un secteur qui n'en a pas besoin.
Et d'ajouter que l'offre actuelle n'est pas plus chère que l'était Autolib, mais il reste quelques problèmes. Désormais, il faut chercher une place pour se garer sur les véhicules en trace directe. Impossible également de prendre une voiture en banlieue, puis de la garer à Paris pour aller travailler, comme le permettait Autolib.
Invité de ce droit de suite, Ludovic Bu, expert conseil en mobilité. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une usine à gaz, ce que vient de nous expliquer Sébastien Sabiron. Qu'est-ce que vous en pensez? Peu de chance, telle quelle, que ça marche, non?
Oui et non, parce que avant Autolib, il faut se souvenir que dès 1999, une société d'autopartage s'est lancée à Paris et une autre à Strasbourg. Les deux sont encore vivantes, ça veut dire que le service est utile et utilisé. Et c'était sous emprise privée. Et donc, il n'y a pas de subvention publique ou très peu en ce qui concerne Strasbourg. Et ça fonctionne. Simplement, c'est effectivement l'autopartage en boucle. Autolib a permis de rendre visible quelque chose qui existait depuis très longtemps. Et là, on est revenu dans une période de moindre visibilité. Mais avec beaucoup plus d'acteurs et qui, pour le coup, puisqu'il y a des opérateurs, des industriels de l'automobile derrière, avec beaucoup plus de moyens de publicité et donc de faire connaître ces nouveaux services.
Mais le problème, les témoins en parlaient, c'est le manque de lisibilité du système.
Oui, mais vous savez, quand le métro s'est lancé, quand les bus publics aujourd'hui de la RATP se sont lancés il y a un siècle, c'était exactement la même chose. On est exactement dans la même période. Des services qui sont lancés par le privé qui fait l'innovation, le public qui tente peu ou prou de suivre et de s'inscrire dans la logique portée par le privé. Et à un moment donné, mais il faut 15, 20, 30 ans pour que ça se régule, pour les bus et le métro d'ailleurs, il a fallu bien plus, l'État ou le public, en tout cas le secteur public, reprend ou délègue, en tout cas met des règles. Et quand on regarde ce qui se passe avec les trottinettes, elles se sont lancées il y a un an, exactement à Paris. On est déjà à plusieurs dizaines de millions de trajets en trottinette, et dès un an après, la collectivité commence à dire « Oh là, on va réguler ». Donc je pense que là où il a fallu 30 ou 40 ans pour réguler le bus et le métro, il faudra 5 à 10 ans pour réguler les trottinettes, et il en faudra 15 ou 20 pour réguler l'autopartage. On est sur quelque chose de tout à fait logique et appréciable, parce que tout de même, derrière, ce qui se joue, c'est le changement des mobilités. Oui. Il y a 20 ans, 30 ans, on était sur chacun sa voiture pour se déplacer, pour ceux qui en avaient les moyens. Aujourd'hui, on est sur de la mutualisation de moyens le plus possible.
Alors, à condition que le parc soit suffisant, hein, ce ne sera pas le cas là, apparemment. Il y aura beaucoup moins de voitures en autopartage qu'autant d'autolib.
Oui, mais il ne faut pas oublier, et c'est d'ailleurs un défaut qui a été souligné dans le reportage qui précédait, ou dans les témoignages qui précédaient, Autolib couvrait 70 communes en Ile-de-France. Là, on ne parle que de Paris intramuros. Et une des faiblesses d'ailleurs économiques du système Autolib, c'était justement le fait qu'il couvrait en dehors de Paris. Et donc vous aviez des voitures qui pouvaient ne pas bouger pendant 3 ou 4 jours lorsqu'elles étaient en dehors de Paris. Parce que le taux d'équipement en voiture particulière est évidemment beaucoup plus élevé, et donc les utilisateurs de voitures avaient leur propre voiture. Ce qui est beaucoup moins le cas dans Paris, puisque vous savez que très peu de fourriers en fait gardent encore une voiture. Donc la difficulté, le nombre de voitures, il ne faut pas le comparer parce que ce n'est pas le même périmètre. La difficulté principale, elle n'est pas dans Paris, elle est en dehors de Paris, comme ça a été dit. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous comptiez sur Autolib, la seule offre de voitures partagées en dehors de Paris, il n'y en a plus, à part les loueurs type Avis, Hertz, etc.
Un dernier mot très rapidement, est-ce que la meilleure alternative à la voiture, ce ne sont pas les transports publics? Est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait plutôt forcer?
Alors aujourd'hui, en Ile-de-France, on a déjà l'un des meilleurs systèmes de transport public et l'un des plus complets au monde. Donc, à mon avis, là où il faut forcer, c'est plutôt essayer de faire que les gens puissent faire les distances à pied ou en vélo ou en trottinette plutôt qu'en mode motorisé. Mais c'est un combat de plus longue haleine que juste une année. Donc, on peut se donner un droit de suite dans 5 ou 10 ans.
Eh ben d'accord. Parfait. Ludovic Bu, expert conseil en mobilité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Allez, pour conclure un match France-Brésil, c'est toujours évidemment une affiche de choix en foot. Et c'est l'affiche du 8e de finale des Bleus ES ce soir au Havre. Premier match à élimination directe pour les Françaises dans cette Coupe du Monde, dont elles restent favorites pour la finale, avec quelques autres bien sûr, dont les Brésiliennes a priori ne font pas partie, mais les joueuses de Corinne Diacre ont montré quelques faiblesses au premier tour. Alors, méfiance, Guillaume Batin, vous êtes au Havre où les 25 000 spectateurs du stade Océane espèrent des Bleus plus sereines ce soir.
La première période et les 3 buts face à la Corée du Sud en match d'ouverture, voilà le modèle à suivre, une équipe de France rapide, très collective et combative. Mais depuis, les Bleus ont montré beaucoup trop de faiblesses pour espérer garder la coupe à la maison. Il y a le problème du milieu de terrain. Corinne Diacre doit-elle conserver Gaëtan Tiné? La Parisienne a beaucoup souffert dans les matchs de groupe. Elle n'est pas au niveau espéré par la sélectionneuse. Élise Boussaglia est-elle aussi en difficulté avec seulement un duel remporté sur 2? Tiné Boussaglia, c'est 350 sélections. Une expérience importante dans une grande compétition, certes, mais les deux joueuses de 33 ans ralentissent le jeu de l'équipe de France. En attaque, Valérie Gauvin est un point de fixation intéressant, mais les Bleus gâchent beaucoup trop d'occasions. 7 buts en 3 matchs contre 18 pour les États-Unis. Heureusement, derrière, Grinchbock et Wendy Renard tiennent la baraque en défense centrale. France-Brésil, cette affiche de rêve à élimination directe, doit pousser les Bleus à franchir un cap, tactique et mental, sans quoi l'aventure pourrait s'arrêter plus tôt que prévu.
Et France-Brésil, c'est à 21h, autre match du jour cet après-midi, Angleterre-Cameroun. Et puis en foot, c'était attendu, le Brésilien Dani Alves, 36 ans, annonce son départ du PSG. Il était depuis 2 saisons à Paris. Enfin, l'autre événement du jour en sport, c'est au Castellet, le Grand Prix de France de Formule 1, 8e manche du championnat du monde. Les Mercedes toujours dominatrices, Lewis Hamilton en pole position devant son coéquipier Bottas.